Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est ensemble évidemment jusqu'à 20h avec le débat du Club des Idées, il est 19h22. Et si nous abandonnions notre bonne vieille voiture pour le vélo, c'est la grande tendance de cette rentrée, vous en avez entendu parler depuis le déconfinement. Les ventes de vélos explosent partout en France, il y a même, paraît-il, des listes d'attente maintenant chez les revendeurs. Paris a des allures d'Amsterdam, alors le vélo peut-il aussi conquérir les campagnes comme l'ont fait les Suédois tous à vélo? Est-ce vraiment réaliste?
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Voilà, Yves Montand était peut-être un visionnaire, tous à vélo. On en parle ce soir avec Jérôme Monnet, professeur à l'école d'urbanisme de Paris et chercheur au laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous êtes venu à vélo?
Oui.
Eh bien, c'est bien. Pierre Cerne, président du Club des Villes et Territoires Cyclables. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Et Marc Simoncini, fondateur de Mythic, mais pas que, qui vient de lancer un vélo électrique intelligent, le Angel Bike, c'est ça?
Oui.
Vélo électrique pour rouler en ville et à la campagne ou seulement plutôt à la ville?
Il a été conçu pour les villes ou pour les trajets courts de l'ordre de 5 à 10 kilomètres. Donc voilà, petite bourgade, oui.
Donc c'est une conviction que vous avez, le vélo c'est l'avenir?
Alors nous on a eu cette conviction il y a 3 ans. On a fait le pari que les villes allaient être complètement modifiées il y a 3 ans, parce que ce vélo on a mis 3 ans à le développer. Et on a parié qu'une des grandes capitales d'Europe, à l'époque on n'imaginait pas que ça puisse être Paris, mais on a fait le pari qu'une des grandes capitales d'Europe allait bannir la voiture thermique individuelle des centres-villes. Et on s'est dit, ça va arriver, et donc il faut proposer un moyen alternatif suffisamment performant pour que les gens puissent abandonner leur voiture.
Et vous avez, la conviction que ça peut arriver, que demain les villes peuvent être allez, à 90% des villes de vélo?
Bah oui, on y est presque. On y est presque. Alors, on peut traiter les voitures électriques différemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sur cette voie-là et c'est, à mon avis, irréversible.
Alors peut-être d'abord un mot du constat. C'est vrai qu'on assiste à un phénomène. Hein, la pratique du vélo a bondi de 87% depuis le déconfinement. Les ventes, je le disais, s'envolent. Les réparations aussi, avec des magasins spécialisés qui sont pris d'assaut parce qu'il y a des aides d'État maintenant pour faire réparer son vieux vélo. Une aide de 50 euros pour tous ceux qui veulent remettre leur vélo d'aplomb, Pierre Cerne. Et ça profite à tout le monde. Tout le monde va maintenant réparer son vieux vélo pour enfourcher la bicyclette.
Exactement. C'est assez inimaginable, ce qui est en train de se passer. En quelques mois, là, il y a eu une sorte de... On a basculé dans un autre monde
pour le vélo.
Mais
est-ce que ça touche toute la France ou
c'est
juste les centres urbains?
C'est ça qui nous a le plus impressionné. Donc, moi, je suis président du Club des Villes et Territoires Cyclables. Donc, on a des collectivités de toute la France, mais on avait évidemment surtout des grandes villes, des métropoles, des communautés d'agglomération. Là, on a été contactés par des villes, enfin même des bourgs, en fait, tout petits, parfois.
Ah oui?
Enfin, je veux dire, Saint-Quépéros... en Bretagne, entre Lannion et Perros-Guirec, comme ça, dans le périurbain ou même dans le rural.
Pour développer une offre de mobilité vélo.
Pour faire des aménagements cyclables temporaires.
Donc
y
des
compris
pistes cyclables.
Sur une départementale, en discussion avec le département.
Alors le temporaire, il faudrait que ça s'arrête parce que les plots jaunes, là, c'est pas super élégant quand même.
Ouais, mais ça a permis d'aller très très vite.
C'est
en
une
fait.
Blague parce que ça non, fait non, débat
mais ça
en
a
ce
permis d'aller
Paris.
Très très vite. Et évidemment, on est dans la phase maintenant de pérennisation et tout ça va passer en blanc. Mais quand on voit que Saint-Loup-la-Mairie, dans les Deux-Sèvres,
ouais.
Une petite ville à Renton, dans la Haute-Savoie, enfin des endroits.
Et donc, ils veulent construire des pistes cyclables.
Un bout du Tarn-et-Garonne. Ouais, et ils font des aménagements cyclables temporaires, y compris sur des distances. De l'ordre de 5-10 km, parce qu'en en fait, on se rend compte qu'il y a des gens, et le confinement en fait, et le déconfinement ont poussé des gens en fait, à prendre ce type de déplacement. Nous, on pensait que ce serait vraiment dans les endroits où les gens ne prendraient plus les transports en commun. Mais là, ce n'est pas une question de transport en commun.
Alors,
c'est vraiment une question de nouveaux types de déplacements pour faire 5 km jusqu'à la zone d'activité. Donc, ça peut marcher, en fait, ce que disait monsieur, ça peut marcher y compris dans le rural et le périurbain.
On va en parler des chiffres de mobilité aujourd'hui en France, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'au quotidien, en fait, les Français font des petits trajets et qu'on a l'impression, quand on habite en milieu rural, qu'on a besoin de sa voiture. Mais en fait, on pourrait, dans bien des cas, n'utiliser qu'un vélo ou une mobilité de
ce type. Ça remplace souvent la deuxième voiture, en fait,
en
milieu rural et périurbain. Ça remplace la deuxième voiture, le vélo électrique.
Alors, sur le constat, Jérôme Monnet, je le disais, vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris, vous connaissez bien ces histoires de mobilité. Est-ce que cette tendance du vélo, d'abord, elle est durable ou elle est juste post-Covid parce que les gens ont un peu peur d'aller dans les transports en commun? Et deux, est-ce qu'elle peut gagner les campagnes de façon massive?
Bon, il n'y a aucun doute qu'elle est durable, mais ça sera durable si on ne se polarise pas que sur cette forme spécifique qu'est le vélo. Ce qui va être durable, c'est l'hétérogénéisation des formes de micromobilité. Et le vélo va en faire partie.
Par exemple, pour être concret ?
Eh bien, concrètement, trottinette, skate, vélo électrique, vélo non électrique, enfin n'importe quoi électrique ou non électrique.
Mais ça, c'est bien pour les villes, mais à la campagne, pour emmener ses enfants à l'école, c'est un peu compliqué d'y aller en skate, non ?
Écoutez, la trottinette, on n'arrête pas de voir des parents qui emmènent leurs enfants à l'école.
À la campagne sur aussi.
Moi, je n'ai jamais observé à la campagne. Mais en attendant, la trottinette qui n'était jamais été dessinée pour avoir deux personnes dessus, il y a des usages sociaux inventifs qui les transforment. Et je pense que ça va concerner le vélo. Parce que, regardez, le vélo tel qu'on le voit aujourd'hui, sa forme fondamentalement n'a pas changé pendant un siècle. Ce qu'on voit aujourd'hui,
c'est toujours deux roues, une chaîne, voilà,
un guidon et une selle.
Alors à part celui de Monsieur Simoncini,
mais moi, ce que je pronostique, ce qui va être durable, c'est la prolifération et l'hétérogénéisation de ces formes où vous aurez des hybrides, trottinettes, vélos, des vélobus. Vous voyez, il y a déjà les vélos cargo.
Les vélos cargo, oui.
Mais ça va être vrai pour des trottinettes. Il y aura des trottinettes cargo, il y aura des trottinettes familiales.
On peut clipper une trottinette sur un fauteuil roulant.
Voilà.
Ah oui.
Ouais. Il y a ça maintenant qui existe.
Donc c'est la multiplicité des outils.
C'est ça qui va devenir durable.
Pour se déplacer, qui peut devenir durable.
En gros, l'effondrement de la voiture, qui était aussi une forme assez standard et homogène, et la multiplication et le remplacement de ces énormes engins par une multiplicité d'engins qui vont avoir des formes différentes. Il n'y a pas que le vélo. Alors ce qui est intéressant avec l'infrastructure cyclable, c'est qu'elle est propice à ce que tous ces engins différents l'utilisent.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h32, on est toujours avec nos invités en studio, en direct, Europe Soir, avec le débat du Club des Idées. Si nous abandonnions notre bonne vieille voiture pour un vélo, on parle ce soir de la vélomania qui gagne la France dans les villes, mais aussi peut-être demain dans les campagnes.
Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris,
la complainte de l'heure de pointe, c'est Joe Dassin, bien sûr. Alors, est-ce que demain on pourra tous circuler à vélo dans les campagnes? On en parle avec vous, Marc Simoncini. Quelle est votre conviction? Vous avez conçu un vélo plutôt pour les zones urbaines. Est-ce que vous pensez que demain, le vélo peut être une mobilité alternative à la voiture dans les campagnes? J'évoquais tout à l'heure les chiffres de mobilité des Français. Aujourd'hui, le vélo, ça ne représente que 3 à 4% de la mobilité globale. Mais on sait que les Français parcourent en moyenne entre 5 et 14 kilomètres à peu près chaque jour pour aller au travail, pour aller chercher leurs enfants à l'école, pour aller faire leurs courses. Donc en fait, c'est très peu.
C'est très peu, et le vélo électrique, il se trouve que si on utilise cet outil, c'est un des plus adaptés pour faire ce type de distance dans des temps qui sont donnés et avec une condition physique qui évite d'arriver trempé au bureau parce qu'on a pédalé sous la canicule. Donc on pense, nous, que le vélo électrique, c'est un des meilleurs outils pour se déplacer sur ces distances. La dichotomie ville-campagne, on ne l'a pas vraiment faite. On l'a juste faite en termes d'économie parce qu'on a voulu faire un vélo très léger, donc la batterie est plutôt légère. Et pourquoi ? Parce que le principal frein à l'achat d'un vélo, en tout cas dans les villes, je ne sais pas, à la campagne, c'est le vol et la sécurité du passager. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est de concevoir un vélo qui résolve deux problèmes de vol et de sécurité quand on roule dessus. Est-ce qu'il y a des vols à la campagne ? Je sais.
Et vous me disiez, pour l'anecdote, quelque chose d'amusant pendant la pause, vous me disiez, j'ai eu l'idée, parce que mon fils, j'ai compris qu'il ne passerait plus le permis ou qu'il n'aurait pas de voiture demain, ça ne l'intéressait pas.
Il me réclamait un scooter, je lui dis non, c'est trop dangereux, je t'achèterai une petite voiture quand tu auras 18 ans. Et il m'a dit, mais je veux pas de voiture. Et là, j'ai dit, ça y est, on a changé d'époque. Si les gamins aujourd'hui, 18 ans, passent pas le permis et ne veulent pas de voiture, c'est qu'on est déjà dans un nouveau monde.
Alors à tous les gens qui nous écoutent, Jérôme Monnet, vous êtes professeur, je le rappelle, à l'école d'urbanisme de Paris, vous connaissez bien ces questions de mobilité. Pour tous les gens qui nous écoutent, peut-être en milieu rural, et qu'ils sont bien sympas à Europe 1 avec leur promesse du vélo pour tous et du vélo du quotidien. Mais nous, à la campagne, on a besoin de notre voiture. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
On a besoin de la voiture, mais ça veut dire qu'on devient dépendant de la voiture. C'est-à-dire que là, vous avez un système où là où vous avez choisi de vivre, là où vous avez choisi ou pas choisi d'aller travailler, là où vous n'avez jamais le choix d'aller faire vos courses, c'est un système qui va vous contraindre à devoir avoir une voiture. Et donc, si vous changez un élément du système, alors si vous enlevez la voiture, comment vous faites pour accéder à votre travail?
Mais
comment vous faites pour accéder au service?
Par exemple, si le supermarché est à 15 km, on a besoin d'un volume assez suffisant pour ramener les courses. Et s'il pleut, en plus de ça, est-ce que le vélo est le moyen idéal?
C'est magnifique comme exemple. J'ai un collègue, François Hacher, qui avait bien montré la relation qu'il y avait, qui était strictement que le coffre d'une voiture, le volume d'un frigo et le volume d'un caddie ça faisait système. C'était la même chose. Et donc, si vous avez un frigo, si vous avez une voiture, si vous avez des supermarchés, vous retrouvez la même chose. Donc évidemment, si vous voulez faire vos courses en vélo, vous allez fragmenter vos courses. Donc vous n'allez pas acheter l'équivalent d'un coffre de voiture. Donc vous n'allez pas avoir besoin d'un caddie. Donc vous n'allez pas avoir besoin d'un supermarché. Mmh. Vous me suivez?
Oui, absolument.
Et donc, là,
sauf
moi,
que c'est tout l'aménagement des villes et des villages. Ah,
je suis urbaniste, c'est bien pour ça que je parle de ça.
On veut revitaliser les bourgs, les centres-villes.
Quand on parle de la désaffection des centres-villes, ça veut dire qu'il faut d'abord réimplanter tous les commerces de proximité dans les petites communes.
C'est l'urbaniste qui vous parle. C'est-à-dire, aujourd'hui, on commet l'aberration d'implanter des collèges à des endroits où les enfants ne peuvent pas y aller tout seuls en vélo. Donc, ça oblige les parents à emmener leurs enfants au collège en voiture. Vous voyez, c'est vraiment des problèmes d'urbanisme.
Mais alors, qui commence à changer l'espace?
Alors, c'est toujours quand c'est comme sous système, on se tient par la barbichette, il faut que tout le monde s'y mette. Hein.
Pierre Cern, vous êtes président du Club des villes et territoires cyclables.
En fait, il y a eu des collectivités qui ont été pionnières, mais là, on sent que vraiment, c'est en train de faire tache d'huile à une vitesse incroyable, à la fois dans les types de collectivités qui s'y mettent. Ça devient totalement transpartisan. Moi, dans Club des villes et territoires cyclables, j'ai des élus de droite, de gauche, PC, vert, tout. Et il y a un engouement, mais un engouement parce que les gens le demandent, en fait. Maintenant, quelle que soit la couleur politique...
Vous pensez que le changement viendra de la société civile et non pas des pouvoirs publics?
Il a déjà commencé, en fait, dans la société. Et franchement, je reviens sur cette petite commune de Bretagne, Saint-Quay-Perros. Oui. Le maire, il a été élu en mars. Il a eu l'intuition qu'il fallait qu'il fasse des pistes comme ça pendant et en sortie de déconfinement. Le Décathlon qui est à 10 km, au bout de deux semaines, il n'y avait plus un vélo à vendre dedans.
J'ai vu qu'à la sortie du confinement, il y avait eu 15 000 demandes de réservation de vélos chez Décathlon.
Et nous, on se faisait engueuler par les réparateurs qui disaient on a trop de boulot. Les gars.
Tout le monde se fait engueuler.
C'était incroyable. Et nous, ils nous avaient promis la filière qu'ils avaient des stocks jusqu'en octobre.
Oui.
Et ça a été bouffé tout de suite.
Alors, de Bretagne, parce que vous évoquez cet exemple en Bretagne, on va aller aux Pays-Bas avec le représentant de l'ambassade des Pays-Bas en France, Stijn van Oosteren. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous par téléphone. Alors, c'est vrai que vous avez écouté ce qui s'est dit ici en studio. On avait envie de votre avis, car les Pays-Bas font partie, avec la Suède, avec d'autres, des pays qui sont pionniers en matière de vélo, où là-bas, tout le monde se déplace à vélo avec des grandes autoroutes qui relient les campagnes aux villes, qui sont bien droites, qui sont écartées des voitures. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à basculer au tout vélo comme cela?
Alors, je suis complètement d'accord avec Pierre Cern et que c'est la société civile qui amène ce changement. Si les Pays-Bas sont aujourd'hui un pays cyclable, ce n'est pas parce qu'ils ont une culture vélo, mais c'est parce qu'ils ont décidé, à un moment donné, de créer une infrastructure dans laquelle un enfant de 7 ans peut se déplacer tout seul. Et c'est la culture qui est une conséquence de ça. Et comme souvent, c'est une crise qui provoque le vélo. Dans les années 70, les Néerlandais en avaient assez de la congestion automobile, notamment. Oui. Comme aujourd'hui en Île-de-France, il y a la densification qui a été décidée, donc, alors que l'espace ne grandit pas. Ensuite, il y a eu un ras-le-bol de l'insécurité routière. Il y a un journaliste qui a eu sa fille tuée par un automobiliste. Et suite à ça, il a lancé un mouvement national qui s'appelle « Stop au meurtre des enfants ». Et il a dit « Si vous trouvez comme moi qu'il faut que nos enfants puissent rouler en sécurité, alors rejoignez-moi ». Et ça a mis des milliers de gens dans la rue. Et ensuite, ce qui a vraiment fait déborder le vase, c'est le choc pétrolier en 73, où l'économie était à sec, littéralement, et donc il fallait trouver une solution. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement néerlandais, sous la pression en fait, du peuple néerlandais qui réclamait de la sécurité routière, a dit « on va développer le vélo, parce que comme ça, les enfants peuvent de nouveau retrouver leur liberté. Et puis, on gagne notre autonomie parce qu'on n'a pas de pétrole aux Pays-Bas.
Oui, ça veut
dire... C'est comme ça que ça s'est passé. Le lendemain, en 1974, le gouvernement a lancé son premier plan vélo national.
Bon, on a un peu de retard, visiblement.
44 ans avant la France.
Bien. Non, je voulais vous poser une question, monsieur, parce que tout à l'heure, Jérôme Monnet évoquait la nécessité de reconstruire l'espace, la mobilité, mais aussi les villes et villages. Il faut repenser tout ça. C'est un ensemble, évidemment. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Vous avez repensé vos villes en fonction de cette mobilité vélo?
Non, on ne les a pas défigurées pour les garder comme elles sont, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'aux Pays-Bas, on a toujours fortement contraint la construction de zones commerciales en périphérie pour ne pas enfermer, comme c'est le cas aujourd'hui en France, les citoyens dans le piège de « je fais mes courses à 15 km ».
Oui.
comme il l'expliquait très bien aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle que Jean Castex, le Premier ministre français, a annoncé il y a peu de temps que suite à la Convention pour le climat, il faut absolument, il a demandé aux préfets de faire le maximum pour vraiment stopper ces constructions de ces zones commerciales en périphérie qui engendrent en fait un besoin de mobilité qui est totalement artificiel. Parce que quand les gens, après avoir fait leurs courses, rentrent dans leur ville et ils constatent que leur ville se casse la figure parce que les petits magasins s'effondrent, c'est pourquoi ? C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont allés faire leurs courses ailleurs. Donc aujourd'hui, on veut créer de la proximité.
Voilà,
c'est le vélo, c'est un instrument pour créer cette proximité et cette qualité de vie.
Bien, c'est un tout. Vous restez encore avec nous quelques instants par téléphone, monsieur le représentant de l'ambassade des Pays-Bas en France. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h42, on est toujours avec nos invités qui continuent le débat pendant la pause. On est toujours en direct, 19h42 sur Europe 1 avec le débat du Club des Idées. Et on parle de vélo. Oui, vous voyez que le vélo, ça suscite le débat. C'est la grande tendance de la rentrée. Alors après les villes, le vélo gagnera-t-il les campagnes? On en parle donc avec nos invités. Je voulais vous poser cette question à Jérôme Monnet. Vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris, chercheur au laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Est-ce qu'on peut imaginer, pour être concret et pour avancer un peu, un modèle comme Vélib partout sur le territoire et dans les campagnes? Vous parliez des différents outils de la mobilité. Alors, il y a le vélo du particulier qui appartient à tout un chacun. Et puis, il y a aussi cette mobilité où on se partage les choses. Il y a l'autopartage, il y a le vélo-partage. Est-ce que ça peut arriver partout en France?
Alors, sans doute. Et justement, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, en concernant toutes les formes de transport, donc y compris des voitures, des camionnettes, des camions de déménagement, des vélos, des trottinettes, enfin, tous ces véhicules peuvent être partagés avec cette commodité que vous arrivez quelque part, vous laissez, vous allez vaquer à vos occupations, quelqu'un d'autre prend le véhicule que vous avez laissé et va vaquer à ses occupations, etc. Oui. Mais encore une fois, ça ne pourra pas résoudre tout seul tous les besoins. Et on continuera à avoir besoin.
Donc, il faut que ça s'additionne à d'autres systèmes de mobilité.
Oui, il faudra compléter, y compris sur les mêmes formes, mais en particulier sur les micro-véhicules, la possibilité que les micro-véhicules deviennent, enfin, ils le sont déjà pour certains, multimodaux. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit comme innovation sociale, c'est la grosse innovation sociale qu'on observe ces temps-ci, c'est les gens prennent leur trottinette et vont prendre les transports en commun avec leur trottinette. Et ça, c'est génial parce que ça donne une portée au transport en commun incroyable. C'est-à-dire, quand on considérait que les gares avaient un rayon de rabattement de 800 mètres, bah, imaginez, avec une trottinette, vous avez un rayon de rabattement de 5 km. Donc, et là, encore une fois, les pouvoirs publics sont en retard. Les opérateurs de transport sont très en retard. Imaginez, vous pouvez... Aujourd'hui, une personne prend le bus avec une trottinette, ça ne pose pas de problème.
Oui.
Mais si les 40 usagers du bus arrivent avec leur trottinette, ben, il va falloir changer le design des bus.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que j'allais poser la question à Marc Simoncini, qui s'est donc lancé dans le développement et la vente d'un vélo électrique particulièrement performant, notamment pour les villes. Est-ce que ce n'est pas le risque demain que les villes soient saturées? Parce qu'à Paris, on est parti à fond dans les vélos, mais c'est vrai qu'on n'est pas comme aux Pays-Bas, avec des grandes pistes cyclables. Les choses sont en train de bouger et de s'adapter. Mais c'est vrai que ça pose des problèmes entre les vélos, les piétons, les voitures, où on a du mal parfois à cohabiter tous ensemble.
Je ne vais pas dire ça devant un expert du sujet, mais moins il y aura de place attribuée à la voiture, plus il y aura de place attribuée au reste. Aujourd'hui, il y a les trois quarts de l'espace public, c'est pour la bagnole. Alors qu'on voit bien que les voitures dans les centres-villes, c'est une aberration. Donc moi, j'ai juste un tout petit bémol sur l'aspect propriété-partage. Je mets le vélo un petit peu à part parce que de ce que je vois...
C'est normal que vous en vendez en même temps.
Non, mais je ne parle pas de ça pour le coup, mais de ce que moi je ressens et de ce que j'ai beaucoup de copains autour de moi qui ressentent. Le vélo, c'est quand même un objet auquel on est très attaché. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Peut-être que c'était le cheval il y a 200 ans et le vélo.
Vélo et
je crois que l'envie d'avoir son propre vélo, de le bichonner, de le monter, de le truc, je ne suis pas sûr que les gens aient envie de bichonner une trottinette. Le vélo, je trouve qu'il y a un rapport particulier entre les gens et les vélos, et je ne suis pas si sûr. Alors, bien sûr que le vélo partage marche très bien, ce n'est pas le sujet. Hein.
Ouais.
Mais je pense que c'est peut-être
Il y a des milliers de gens qui ont prêté leur vélo pendant le confinement.
Ça les ennuie de prêter
leur vélo aux soignants pendant le confinement. Il y a eu une bourse au vélo comme ça, et les gens qui ne l'utilisaient pas parce qu'ils ne se déplaçaient pas, ont prêté des milliers de vélos aux soignants.
Je voudrais vous entendre aussi sur
un déclic, en fait.
Sur un point, Jérôme Monnet, vous êtes... Pierre Cerne, pardon, vous êtes président du Club des Villes et Territoires Cyclables, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé. Le vélo, c'est bien pour la santé, mais c'est bien pour l'écologie, parce que c'est ça aussi la finalité, c'est faire baisser nos émissions de CO2. Est-ce que là, l'impact est vraiment très important?
Là, on est en train d'entrer dans des proportions qui comment ça a vraiment marqué un gros, gros... Quand on voit 60%, 80% d'augmentation, on est en train d'entrer dans quelque chose. Il faut voir que la France est sous le coup d'une menace d'énormes sanctions européennes parce qu'elle ne respecte pas la qualité de l'air. Mmh. Un tiers du plan qui a été présenté par le gouvernement à Bruxelles pour dire comment ils allaient résoudre et ne pas prendre l'amende, un tiers du plan, c'est du vélo. C'est l'essor du vélo. Et donc, le plan vélo... Et là, on parlait du vol. C'est vrai que c'est un énorme frein. Les gens, ils se font voler une fois le vélo, ils arrêtent d'en faire. Ils ne le prennent plus. Ah oui. À partir du 1er janvier 2021, tous les vélos qui seront vendus auront l'obligation d'être marqués, comme il y a en Allemagne. En Allemagne, rien
donc
qu'avec ça...
on pourra les retrouver plus facilement.
Exactement. Et il y aura un fichier centralisé. Et ben, en Allemagne, ça a fait chuter le vol et ça a participé au boost du vélo.
Bien.
À partir de 2021, on a enfin ça. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Il manque encore quelques trucs, mais ça, on l'a obtenu et c'est super.
On est toujours au téléphone en direct avec Sten van Osteren, qui est représentant de l'ambassade des Pays-Bas en France. Peut-être un mot, monsieur, sur l'impact écologique du développement du vélo chez vous aux Pays-Bas. Est-ce que là aussi, ça a eu une incidence importante sur les émissions de CO2? Est-ce qu'on respire mieux à Amsterdam, à Rotterdam?
L'impact est important parce que les transports sont la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Donc forcément, ça a un impact très positif. Mais moi, ce que je voudrais souvent surtout mettre en avant, c'est que le vélo, c'est avant tout un moyen de résoudre un problème d'espace, une façon de gérer la rareté de l'espace urbain qui devient de plus en plus rare à tel point qu'aujourd'hui, on a besoin d'autres solutions pour organiser notre mobilité. Et je vous donne juste un exemple.
Oui.
Il y a le boulevard Sébastopol à Paris, où il y a une petite piste cyclable qui transporte 17 000 cyclistes tous les jours, alors que sur les 3 voies motorisées juste à côté, il y a moins de personnes en voiture. Donc, malgré ces 3 voies pour les voitures, la voiture n'arrive pas à rattraper le vélo. Donc, vous voyez, c'est juste une efficacité extrême dont les politiques ont besoin aujourd'hui pour résoudre ce problème de densification. Et parlons aussi de la qualité de vie, tout simplement.
Oui. Et le bruit.
Pouvoir d'achat.
Le bruit.
Et le bruit, dit Marc Simoncini en plateau. Le bruit également.
Le bruit dans les villes.
Mais n'oublions pas que ce qu'il y a de moins polluant, de très, 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 très loin, mais infiniment moins polluant que le vélo, c'est la marche.
Ah, oui.
Et elle a besoin de place.
Oui, alors là, ça sera l'occasion d'un autre débat, parce qu'aller faire ses courses à pied...
C'est pour ça qu'on ne met pas les bicyclettes sur les trottoirs.
Ou au contraire, on parlait de qualité de vie quand même. Quand vous avez un aménagement de l'espace qui permet aux gens d'aller faire leurs courses à pied, les gens le font, ils adorent ça.
Par quoi il faut compléter, au-delà des micro-mobilités, pour terminer cette discussion, le vélo? Vous me disiez pendant la coupure, attention, le vélo ne pourra pas tout résoudre, évidemment. C'est une solution, mais ça n'est qu'une des clés de la solution.
Clairement, il faut penser comme un système, c'est-à-dire le vélo avec les autres modes de transport, en particulier avec la marche, avec les transports en commun et toutes les autres formes de micromobilité. Donc, on a un industriel ici, penser au vélo multimodal, parce que ça permettra d'articuler avec les transports en commun. Et à partir de ce moment-là, une bonne quantité des questions qu'on se pose sur à quoi on a accès avec un vélo. Si vous dites vous démultipliez la capacité d'accès du vélo avec les transports en commun, ben dans ce cas-là, vous avez accès à toute la métropole. Et dans le monde rural, que je ne connais pas aussi bien en tant qu'urbaniste, j'imagine qu'on va s'y retrouver de la même façon. Donc, pour moi, la question, elle est là. Alors, je vous disais, attention, parce que malgré tout, il ne faudra pas considérer ça comme une sorte de potion magique, c'est-à-dire la nouvelle mode dans laquelle, par exemple, les pouvoirs publics s'engouffreraient, investiraient. Alors, on attend encore que ça soit... Ouais.
Ce qui est bien avec le vélo, c'est que ça coûte
plus
quand même
dans le vélo que
cher,
dans l'automobile. Quoi. Mais bon, ça ne peut pas concerner toutes les populations. Il y a des inégalités sociales, des inégalités générationnelles, il ne faut pas oublier
bien
les
sûr.
Personnes âgées,
oui, c'est vrai,
etc. Les PMR, enfin. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours penser système. On peut pas, si on pense à un seul maillon, le vélo, on risque de ne pas faire les choses correctement.
Bien, eh bien merci à tous les trois. Merci à tous les quatre. Merci à vous, monsieur. Par téléphone, vive les Pays-Bas et donc...
Bravo. Surtout bravo.
Vive le vélo. Jaloux.
On marque une courte pause, 19h51, et on va continuer de parler vélo avec notre séquence archive dans quelques secondes, mais le vélo en mode compétition, le Tour de France, on va vous raconter le jour où, pour la première fois, le Tour de France a fait son arrivée sur les Champs-Élysées. À tout de suite.